Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Transistor pour ce journal radiophonique amplifié de ce jeudi 10 janvier 2019, premier de l'année, où on se retrouvera comme d'habitude pour aller recueillir l'information, vous la retransmettre, mixer, égaliser, monter et bien sûr amplifier. Alors on se retrouve pour une formule un petit peu raccourcie, il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui n'aient pas encore fini l'hibernation, mais on va quand même commencer avec une bonne dose d'actu, évidemment le journal pour commencer. Une revue de presse qui sera assurée par Arthur cette semaine. On continuera avec l'édito économique de Julien et puis on passera bien sûr à la culture avec le journal de la culture de Léa et Sarah. Et puis bien sûr, pour terminer, la chronique musicienne de Benoît et Maë. Mais c'est donc tout de suite parti pour une petite heure raccourcie d'amplifié et donc tout de suite le journal. Et on commence tout de suite par le national avec un petit point sur l'actualité tendue autour des dernières modes vestimentaires.
Tout à fait. Une participation en hausse pour l'acte 8 des Gilets jaunes par rapport aux semaines précédentes, comptabilisant 50 000 personnes dans la rue sur l'ensemble du territoire. Les enjeux liés aux Gilets jaunes n'ont pas faibli à l'aune des fêtes de fin d'année, continuant de rassembler face à un durcissement des mesures gouvernementales et surtout continuent à faire couler beaucoup d'encre. Des heurts avec la police ayant été beaucoup commentés politiquement après une altercation musclée entre un ancien boxeur et un CRS, débutant une bataille de cagnottes à la réception politique à géométrie variable. D'un côté, fustigeant la canette Lecci lancée pour couvrir les frais d'avocat du dit boxeur, de l'autre, un silence relatif sur celle lancée en soutien de la police. Pour autant, le gouvernement a sifflé la fin de partie et compte encore renforcer les effectifs de police mobilisés samedi prochain, tout en multipliant les arrestations préventives au motif d'organisation d'une manifestation sans déclaration.
Et maintenant, mon script m'annonce un point politique, mais qu'est-ce donc ?
Alors oui, passons maintenant à un petit point politique, puisqu'alors que Macron a du pain sur la planche avec l'organisation du débat national et la mise en place des trois grandes mesures annoncées pour 2019, à savoir assurance chômage, réforme de l'État et réforme de la loi de 1905, les partis commencent déjà à se préparer pour les élections européennes de mai prochain. Benoît Hamon a refusé hier d'établir une liste commune avec le Parti Socialiste tant que le PS restera attaché à un Parti Socialiste européen qu'il juge être le supplétif des conservateurs et dont il dénonce le désir de coopérer si besoin avec la droite européenne. Le fondateur du mouvement Génération souhaite, je cite, « une grande alliance de gauche humaniste, écologiste, féministe et européenne ». Reste à savoir si c'est encore possible. À droite touche maintenant, pour évoquer la décision de Thierry Mariani, ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy, de quitter les Républicains pour rejoindre la liste Rassemblement National et gonfler les rangs de Marine Le Pen, qui représente pour lui, je cite, « la seule véritable alternative ». Un transfert choc que l'on dit stratégique, mais que l'ex-ministre dit envisager depuis plusieurs années.
Et enfin, il sera question de la loi Philippe.
Tout à fait. L'intervention du Premier ministre Édouard Philippe sur le plateau de TF1 lundi soir a provoqué des vagues. Adoptant une posture d'autorité après un nouveau samedi marqué par des affrontements entre la police et les manifestants, celui-ci s'est dit prêt à faire voter une loi pour sanctionner ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration, de permettre la possibilité de fouiller les passants autour d'un rassemblement qu'ils estiment causer un trouble à l'ordre public, ainsi que la création d'un nouveau délit consistant dans le fait de dissimuler son visage lors d'un rassemblement. Avec donc une peine envisagée d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Répondre à l'ultra-violence par l'ultra-sévérité, tel est le mot d'ordre donné par le gouvernement et une partie des ministres partisans de cette ligne de fermeté. Ceci s'inscrivant dans une vision globale du continuum de sécurité, selon les mots du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ne se limitant pas seulement à la police et à la gendarmerie nationale.
Et après ce petit passage du côté de notre ami Christopher, on passe à l'international.
Avec encore donc l'international, avec Kim Jong-un a achevé jeudi donc une visite surprise de 4 jours en Chine, son principal soutien diplomatique et économique qui lui a réservé une nouvelle fois un accueil en grande pompe dans le cadre du Palais du Peuple à Pékin. Xi Jinping, de son côté, a appelé les Nord-Coréens et Américains à faire un pas l'un vers l'autre, soulignant qu'une rare chance historique s'offrait pour parvenir à un règlement politique dans la péninsule coréenne. Il s'est félicité des mesures positives prises par Pyongyang, qui connaît une détente historique. C'est à l'issue de cette visite que l'annonce d'un grand sommet qui pourrait être imminent entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, la visite prenant alors le tour symbolique d'une pression mise sur les États-Unis pour alléger les sanctions internationales à l'encontre de la Corée du Nord.
Et maintenant du côté de Madagascar.
Et oui, l'élection d'Andry Rajoelina à la tête de l'île malgache marque le passage du putsch militaire à une victoire électorale pour ce qui est devenu une figure politique de l'île. En 2009, ce dernier accède pour la première fois au pouvoir à 33 ans par des manifestations d'ampleur dans la capitale, Antananarivo, suivie d'un coup d'état militaire. L'armée le porte à la tête de la haute autorité de transition qui a remplacé le gouvernement de Marc Ravalomanana, contraint à l'exil. Dans un pays où la désillusion politique augmente au même rythme que l'abstention, Andry Rajoelina a mené une campagne dispendieuse à grands coups de distribution de t-shirts et de feux d'artifice, plus portés sur la forme que sur le fond, présentant un programme plus que flou pour les années à venir, avec une mesure que les experts considèrent comme phare, celle de la suppression du Sénat.
Et dernière nouvelle de ce sujet qui nous préoccupe depuis maintenant plus de 2 ans d'amplifier le Brexit. Qu'en est-il ?
Et oui, puisqu'en Grande-Bretagne, alors pas d'élection, mais une première ministre qui a du souci à se faire. Le Parlement a en effet voté hier, mercredi 9 janvier, un amendement qui oblige Theresa May à présenter un plan B sous 3 jours en cas de rejet de l'accord de sortie qu'elle a négocié avec Bruxelles. L'amendement, déposé par le député conservateur anti-Brexit Dominic Grieve, précise que ce plan B sera amendable par les députés qui auront donc la possibilité de proposer, entre autres, un report du Brexit ou un nouveau référendum. Ce vote, reflet de la volonté du Parlement de reprendre la main sur un exécutif qui peine à faire accepter l'accord de sortie, fragilise Theresa May, qui pourra désormais difficilement menacer les députés d'appliquer un no-deal Brexit en cas de refus de son accord de sortie lors du vote du 15 janvier. Suspense donc, en attendant le vote pour ou contre l'accord de sortie, alors que May doit faire face à la fois à l'opposition des pro-européens et à celle des europhobes, pour qui l'accord proposé par May trahit le Brexit, en condamnant le Royaume-Uni à rester encore plusieurs années dans l'Union douanière européenne en cas d'absence d'accord sur la frontière irlandaise.
Et enfin, on traverse l'Atlantique avec quelques petits soucis de shutdown.
Et oui, c'est ça, puisqu'aux États-Unis, en revanche, on est bien loin d'un accord, puisque le pays est paralysé depuis le 29 décembre par un shutdown budgétaire, c'est-à-dire le gel d'une partie du gouvernement fédéral. Les musées fédéraux, la NASA et plusieurs ministères sont fermés, les services médicaux ne sont plus financés et 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique. En cause, un conflit sur le budget 2019. Les démocrates, en effet, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, refusent d'allouer les 5 milliards de dollars réclamés par Trump pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Un refus qui ne plaît pas au président, qui évoque une crise sécuritaire à régler d'urgence et s'appuie notamment sur des chiffres publiés hier. 50 000 migrants illégaux ont été arrêtés aux frontières en décembre, contre 13 000 en moyenne pour l'année 2017. Dans une allocution télévisée diffusée hier soir, le président s'est dit prêt à prolonger le shutdown des mois, voire des années, s'il n'obtient pas les 5 milliards de dollars réclamés, alors que les démocrates, menés par Nancy Pelosi, récemment élue présidente de la Chambre des représentants, cherchent à voter d'abord les budgets non polémiques dans l'espoir de débloquer une situation devenue problématique.
Merci beaucoup Benoît et Marie pour ce journal et tout de suite on continue avec l'actualité. L'actualité qui nous amène en République démocratique du Congo me semble-t-il, puisque ce sera l'objet de ton billet d'humeur d'ailleurs Marie.